Ce journal est présenté par Élise Thibault.
Bonsoir à tous. Salah Abdeslam est désormais mis en examen et incarcéré en France. Il est le seul des 10 terroristes du 13 novembre à être toujours en vie. Sa parole est donc très attendue par les victimes et leurs familles. La FNAC rachète Darty après plusieurs mois de tractation. L'accord est trouvé. Les employés attendent encore de connaître les conséquences sur l'emploi. La course à la primaire républicaine s'accélère aux États-Unis. Donald Trump a remporté 5 nouveaux États hier soir, mais ses adversaires s'organisent pour faire front. Décryptage dans ce journal avec notre invitée Soufiane Al-Sabag. Nous irons ensuite au Luxembourg pour suivre le procès LuxLeaks et en Autriche où le Parlement a restreint aujourd'hui de manière drastique le droit à l'asile. Un moment important, très important même pour les 350 blessés et les familles des 130 tués lors des attentats de Paris. Salah Abdeslam a été mis en examen ce soir en France. Le seul survivant du commando du 13 novembre est accusé, entre autres, d'assassinat à caractère terroriste. Il est incarcéré ce soir à la prison de Fleury-Mérogis sous très haute surveillance et il doit rencontrer les juges d'ici 3 semaines, Antoine Marette.
Salah Abdeslam pourra être placé en détention provisoire pendant 4 ans. C'est ce que le code de procédure pénale prévoit pour des faits de terrorisme. Une période qui peut être exceptionnellement prolongée jusqu'à 8 mois supplémentaires par la chambre d'instruction de la cour d'appel. Il va pendant ce temps être interrogé directement par les juges d'instruction français. Ils vont pouvoir enquêter sur ses déclarations et puis il y aura le procès. Que peut-il apporter dans la manifestation de la vérité? Tout dépend du comportement de Salah Abdeslam. Va-t-il collaborer avec la justice française? Maître Jean Reynard est l'avocat d'une trentaine de familles de victimes. Il espère qu'avec le temps, le suspect parlera.
Ceux qui ont eu malheureusement un proche qui est décédé dans le cadre de ces attentats, ou ceux qui sont blessés, le temps s'est un peu arrêté. On n'est plus dans l'agitation et l'empressement, on devient malheureusement furieusement patient. Et c'est ce qu'on va devoir faire au fur et à mesure du temps. Et c'est pour cela que ma conviction et celle de mes clients, c'est de dire c'est une très bonne chose, une étape décisive que M. Abdeslam soit en France.
Beaucoup de questions demeurent à propos du rôle exact de Salah Abdeslam. S'agit-il d'un rôle purement logistique ou alors avait-il l'intention de se faire exploser comme les kamikazes? Quelles sont les complicités extérieures? Est-il lié aux attentats de Bruxelles? Vous le voyez, les attentes autour de Salah Abdeslam sont grandes.
Nouvelle grande journée de mobilisation demain contre la loi travail. Syndicats et étudiants appellent à descendre dans la rue 5 jours avant la présentation du texte à l'Assemblée nationale. Des perturbations sont attendues dans les trains, les RER ou encore les aéroports. 20% des vols d'Orly sont annulés. Toujours pas de fumée blanche ce soir pour les intermittents du spectacle. Organisations patronales et syndicats sont réunis une nouvelle fois pour trouver en interne un accord sur le régime d'assurance chômage. Au même moment, les intermittents occupent toujours des théâtres à Strasbourg, Lille, Caen ou encore Montpellier. À Paris, l'Odéon et la Comédie-Française ont dû annuler leurs représentations. La fin du feuilleton Darty. La FNAC reprend la main sur le vendeur d'électroménager en acquérant plus de 50% de son capital. Conforama, qui s'était invité dans les négociations, a finalement jeté l'éponge ce matin. Reste donc maintenant la question sociale. À quel prix les salariés vont payer ce rachat, Hakim Kasmi?
Si pour les dirigeants de la FNAC, le rachat de Darty est une victoire, pour l'intersyndicale, l'ambiance est au pessimisme, puisque 3000 postes pourraient être supprimés à cause des doublons. Christophe Lecomte, délégué force ouvrière à la FNAC.
Les entreprises ne sont pas philanthropes, donc ils ne conservent qu'un seul siège, donc les sièges sont forcément menacés. On a 2 modèles différents en termes d'organisation. La FNAC est très centralisée, beaucoup plus que Darty, donc il va forcément y avoir des regroupements, il y a des logistiques qui sont différentes. Donc forcément, il y aura tous les postes en doublon vont sauter forcément.
Avec l'acquisition de Darty, la FNAC espère réaliser une synergie de 135 millions d'euros par an, notamment en regroupant ses achats. Pour contrer son déclin dans les produits culturels, son cœur de métier où elle doit faire face à une concurrence avec Internet, elle entend également se diversifier dans les objets connectés et le petit électroménager. Mais avant d'arriver à ses fins, elle devra encore avoir l'aval de l'autorité de la concurrence. Dans certaines zones, Darty et la FNAC sont très proches l'une de l'autre, ce qui pourrait créer une situation de monopole et donc la fermeture de certains magasins. Marie-Hélène Thomé, déléguée CGT à la FNAC.
Si l'une des enseignes décide par exemple de céder à l'autre la téléphonie ou l'électroménager, Comment est-ce que cela va se passer? C'est au niveau de l'intégration de nouveaux métiers, de nouveaux segments commerciaux. Là, effectivement, au niveau de la masse salariale, il faudra être vigilant.
Enfin, reste à savoir s'il s'agira d'une intégration ou d'une fusion entre les deux enseignes. Réponse sans doute demain lors du comité d'entreprise de la FNAC.
Hakim Kasmi, si vous êtes abonné au téléphone ou à Internet via SFR, vous avez peut-être déjà reçu ce message. 17 titres de presse, dont Libération ou encore L'Express, sont désormais accessibles gratuitement pour vous sur le web. Le propriétaire, Patrick Drahi, a décidé de rapprocher ses activités dans les médias et les télécoms. Il va ainsi créer 5 nouvelles chaînes de télévision disponibles pour ses abonnés. Un mini Super Tuesday s'est joué la nuit dernière aux États-Unis. 5 États votés pour les primaires. Côté démocrate, Hillary Clinton a remporté 4 de ces 5 États. Elle laisse Rhode Island à son adversaire Bernie Sanders, mais elle est désormais assurée ou presque d'être investie. Chez les Républicains, Donald Trump a certes fait carton plein hier soir, mais il n'est lui toujours pas assuré de gagner. Soufiane Al-Sabbagh, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de politique américaine et auteur de La Nouvelle Droite américaine parue chez Demopolis. Face à cette nouvelle victoire, la nuit dernière, le fonds anti-Trump s'organise. Ted Cruz doit annoncer dans les toutes prochaines minutes maintenant le nom de sa colistière. C'est clairement une accélération de la campagne ?
C'est totalement une accélération de la campagne. Et alors on peut le voir positivement de la part de Ted Cruz qui rassemble ses dernières forces et essaye de convaincre les électeurs que voilà, son projet présidentiel est abouti à tel point qu'il sélectionne son éventuel futur vice-président. Mais on peut aussi le voir négativement, c'est-à-dire que finalement c'est une tentative tellement désespérée de la part de Ted Cruz, qui tel Reagan en 1976 avait choisi Dick Schweiker à la dernière minute pour essayer de contrer la nomination quasi inévitable de Ford, et bien Cruz se met à peu près dans la même position de désespoir aujourd'hui. Donc c'est un peu à double tranchant comme choix.
Et alors le nom de cette colistière, il a déjà fuité, il s'agirait de Carly Fiorina, ex-PDG de Hewlett-Packard. Est-ce que ça peut doper vraiment sa campagne à Ted Cruz ?
Alors idéologiquement, c'est un choix qui fait plutôt sens, puisque Carly Fiorina est plutôt modérée au sein du Parti républicain. Donc ça contrebalance très bien les positions extrêmement conservatrices de Ted Cruz, qui, on le rappelle, est le candidat le plus à droite, bien plus à droite que Donald Trump dans cette primaire. Après, en termes plus stratégiques, politiques, c'est plutôt questionnable, puisque Carly Fiorina, typiquement, ne ramène pas de swing state qui serait intéressant au Parti républicain. Il reste le point, évidemment, du genre. Carly Fiorina est une femme. Et ça, évidemment, ça peut aider Ted Cruz à contrebalancer le ticket éventuellement démocrate qui, vraisemblablement, sera emmené par une femme cette année.
C'est intéressant ce que vous nous dites. Vous nous dites que Ted Cruz est finalement plus à droite que Donald Trump. Vu d'Europe, on est scandalisé par certains propos de Trump sur le Mexique ou sur l'islam. Mais finalement, ce parti républicain est de toute façon aujourd'hui très à droite.
Ah, totalement à droite. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, là, je viens de vous dire une absurdité, mais qui n'en est pas une. C'est que effectivement, aujourd'hui, Donald Trump fait figure de modéré au sein de ce parti républicain. Et c'est d'ailleurs une des clés de sa victoire. C'est qu'on voit typiquement qu'hier soir, 5 États ont voté. Ce sont des États du Nord-Est, plutôt modérés. Et c'est Donald Trump qui a remporté très très largement ses primaires. Donc clairement, ces États modérés dans le camp républicain, aujourd'hui, préfèrent Donald Trump à Ted Cruz. Et Ted Cruz, en faisant le choix de Carly Fiorina, avait de façon évidente besoin de contrebalancer son étiquette très droitière avec un choix plus modéré, plus féminin, plus centriste, qui sera capable éventuellement de contrebalancer l'offre démocrate.
Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, alors qu'il y ait au sein même du Parti républicain ce front anti-Trump, cette volonté de barrer la route à Trump, si finalement il n'est pas plus conservateur que les autres ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas accepté par l'establishment ?
Mais l'establishment, en fait, depuis 30 ans au Parti républicain, œuvre pour le puritanisme idéologique, je dirais. Toujours plus à droite, dans une logique, finalement, qui va vers toujours plus de conservatisme, vers plus de libéralisme à l'américaine. Et aujourd'hui, Ted Cruz représente cela. Il représente des positions idéologiques pures, très à droite, très conservatrices, qui va s'opposer très massivement à l'intervention de l'État, très conservateur sur les valeurs sociales, très interventionniste en matière de politique étrangère. Donc finalement, Ted Cruz, si on regarde la trajectoire historique du Parti républicain, c'est le choix logique. Mais en face de ça, il y a la base du Parti républicain qui pousse pour un candidat plus populiste, qui va être capable d'avoir des positions très droitières, mais en même temps de dire, écoutez, l'État doit intervenir quand il le faut. Donald Trump, il y a une semaine, nous a dit il faudrait taxer les plus riches, et j'en fais partie, c'est une idée qui est à étudier, etc. Et donc toutes ces idées un petit peu plus, je dirais, non conventionnelles au sein du Parti républicain, aident à définir Donald Trump comme un centriste, et il a très raison de le faire, puisque dans quelques mois, ce n'est plus l'investiture du Parti républicain qui va se jouer, mais peut-être la présidence des États-Unis face à Hillary Clinton.
Et un mot justement sur le scénario qui va se jouer maintenant. Le but d'une partie des républicains, c'est d'empêcher Donald Trump d'avoir le magic number, c'est-à-dire le nombre de délégués nécessaires pour être investi dès le premier tour de la convention de juillet. Et si cette convention est ouverte, là, scénario imprédictible ?
Absolument. C'est-à-dire que de façon réaliste, aujourd'hui, il sera difficile pour Donald Trump de perdre cette nomination. Le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est qu'il arrive à la convention avec juste un tout petit peu moins des 1237 délégués nécessaires pour l'emporter. Néanmoins, avec les super délégués qui ont le choix de voter pour le candidat de leur préférence, il est vraisemblable qu'au premier tour, Donald Trump remportera la nomination. Néanmoins, attention, s'il n'arrive pas à remporter cette nomination au deuxième tour, beaucoup plus de délégués seront libres de faire leur choix. Et donc, étant issus de l'establishment, on peut penser qu'ils supporteront plus naturellement Ted Cruz. Et à cet égard, le choix de Ted Cruz aujourd'hui d'annoncer un ticket est très très intelligent, et il faudra suivre de près.
Très bien, merci beaucoup Soufiane Al-Sabag d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je rappelle le titre de votre livre, La nouvelle droite américaine, paru chez Demopolis. Direction l'Autriche maintenant, une nouvelle manifestation de la montée de l'extrême droite. Aujourd'hui, le Parlement a voté une loi qui va restreindre de manière drastique le droit d'asile. Le texte instaure un recul inédit dans ce pays, pourtant à la tradition d'accueil, Blaise Gauquelin.
Avec ce projet de loi, l'Autriche en fait emboîte le pas à la Hongrie sur fond de montée de l'extrême droite. Il s'agit d'un des textes les plus stricts d'Europe. Il limite à 3 ans le bénéfice de l'asile. Il prévoit de bloquer les migrants aux frontières en cas de forte affluence sans même les autoriser à déposer une demande et à les refouler s'ils sont passés par des pays sûrs comme l'Italie ou comme la Slovénie. Il faut noter que les débats à l'Assemblée ont été houleux parce que beaucoup d'élus autrichiens sont issus de familles de réfugiés, des familles juives, hongroises ou yougoslaves, et que le pays s'est déchiré encore sur ce texte. Certains députés sociaux-démocrates ont d'ailleurs fait défection. C'est un texte qui va provoquer à coup sûr la colère de Rome, mais aussi celle de Bruxelles, parce qu'il risque de faire boule de neige en Europe. Les Autrichiens affirment pour se défendre qu'ils ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde et que 24 pays européens sur 28 ne font presque rien pour les soulager. L'Autriche, qui compte 8,5 millions d'habitants et qui a déjà enregistré 18 000 demandes d'asile depuis le début de l'année.
Au Luxembourg, deuxième journée du procès LuxLeaks. 2 lanceurs d'alerte, dont Antoine Deltour, sont jugés pour avoir dévoilé des documents prouvant que leur cabinet faisait de l'optimisation fiscale pour des grandes multinationales, économisant ainsi des millions d'euros d'impôts. Ceux qui sont jugés en ce moment dans le Grand-Duché, ce sont donc ces lanceurs d'alerte. Et aujourd'hui, l'inspecteur en charge de l'enquête a témoigné, Quentin Dickinson.
Au cours de sa très longue audition, ce commissaire de la police luxembourgeoise qui a coordonné les investigations a permis de confirmer nombre d'éléments plutôt favorables dans l'ensemble aux 2 lanceurs d'alerte. D'abord, ils ne se connaissaient pas et ils ont agi seuls, chacun de son côté. Même si ce sont les fuites à l'époque anonyme de Deltour qui ont poussé Allais à agir. Ensuite, aucun des prévenus n'a retiré ni pensé retirer le moindre centime de son action. Plutôt le contraire d'ailleurs, dans le cas de Raphaël Allais, licencié et toujours sans emploi à l'heure actuelle. L'enquêteur luxembourgeois et le président du tribunal ont alors vivement critiqué le peu d'empressement des autorités françaises à leur prêter main forte. Une première commission rogatoire a pris 2 années à se mettre en place et une autre n'a jamais pu être organisée, s'est-il dit ici. le policier en a étonné plus d'un, en terminant sa présentation en affirmant que les pratiques fiscales du Luxembourg étaient peut-être honteuses du point de vue moral, mais qu'elles étaient légales et d'usage dans de nombreux autres pays. La compagne d'Antoine Deltour a comparu pour dresser de lui un portrait un peu convenu. Auparavant, un député européen allemand d'extrême gauche et un chercheur à l'université du Luxembourg s'étaient succédé à la barre. Leurs réponses assez générales et trop visiblement empreintes de parti pris en faveur des prévenus ont quelque peu agacé les magistrats du siège qui, de toute évidence, veulent évacuer l'idéologie et s'en tenir aux faits, rien qu'aux faits.
Et côté météo, des éclaircies pour tout le monde demain, des températures qui restent fraîches pour la saison de 9 à 16 degrés.